Vous m'arrêterez si je suis trop long, parce que des fois je suis bavard. Je disais que les paroles de Gigi et de Julie m'ont fait penser à Frida Kahlo, puisque nous avons une Mexicaine ici. Et je pense que Frida Kahlo a fait son œuvre aussi à partir de sa fragilité, femme blessée, dans la souffrance, qui a exprimé à travers son art plein de choses qu'elle a hissées de toutes ses forces alors qu'elle était en difficulté. Et je pense qu'on est tous un peu des résilients, parce qu'on est mal barré au départ, on est vraiment mal barré. Et moi, je ne vois pas pourquoi je me retrouve ici d'une certaine manière, parce que j'étais un enfant un peu décalé aussi, qui était cancre. J'étais cancre. C'est-à-dire que c'était un peu le chantier chez moi. Et j'ai été élevé par une nourrice dès que je suis né, parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. Mes sœurs étaient en pension. Mon père a perdu son commerce. Enfin, c'était le chantier à la maison. Et il n'y avait pas de solidité familiale. Il n'y avait pas de solidité religieuse comme chez Gigi, où on allait à la messe, mais personne n'y croyait. On regardait les autres, on disait les mal habillés, lui. Oh, t'as vu comment il est ? Il n'y avait pas de vérité, il y avait une sorte de mensonge permanent. Donc moi, je n'ai jamais vraiment cru en rien. Je me faisais virer de l'école. Je comptais pour du beurre parce que j'étais le petit, donc on ne faisait pas trop attention à ce que je disais. Donc il fallait que je déconne, que je fasse le fanfaron, quoi. Et donc, c'est à travers la parole, d'une certaine manière, que je pensais qu'il y avait quelque chose à trouver. Ramener sa fraise, à tout bout de champ, quoi, n'importe comment, même sans structure. Et, il n'y avait pas de structure, quoi, il n'y avait pas de squelette, ça ne tenait pas la route. Après, j'étais dans un collège technique, parce que je me suis fait virer en cinquième, du lycée, et dans le collège technique, on m'a foutu dans la peinture. Je n'avais pas demandé peinture, moi j'ai retrouvé la peinture, donc je me suis fait virer aussi, parce que j'étais un voyou, on volait avec d'autres dans les armoires, on faisait des bêtises, on volait dans les magasins, tout ça, enfin, vraiment un départ en fanfare. Et puis, je ne savais pas trop comment diriger ma vie. À 15 ans, j'ai fait des petits boulots. J'étais peintre en bâtiment, je travaillais dans des usines, j'étais au marché, mon père était dans les fruits et légumes, alors j'ai travaillé aux Halles, et on se levait tôt et tout ça. J'aimais bien l'ambiance des Halles, ça parlait, ça jactait, ça racontait des choses, mais je ne trouvais pas ma voix. Et quand j'ai eu environ 16 ans, mes parents se sont séparés, après ils se sont remis ensemble, ma mère m'a envoyé chez le psychiatre. Elle disait que je me racontais trop d'histoires. Et moi, je suis tombé sur un psychiatre qui a eu l'intelligence de remarquer que j'avais une attirance pour l'imaginaire, de raconter des choses, d'inventer des trucs, d'être intéressé par le langage. Et il n'y avait pas de livre à la maison. Le premier livre qu'on a eu, c'est ma sœur qui l'a eu en prix. Mais on n'avait pas de livre, mon père n'a jamais été à l'école, il venait d'Espagne, c'était un Espagnol. On vivait en Champagne, où il n'y a aucune tradition. Je serais incapable de vous dire une chanson champenoise, un conte champenois, quelque chose qui est une identité champenoise, puisque la Champagne a toujours été rattachée très tôt au pouvoir central. On a marié la duchesse de Champagne au roi de France, il a pris toute la terre avec. Et puis, un peuple ne se forge pas sans une résistance, une identité culturelle. Or, la Champagne, il n'y a pas de... Voilà, le champagne, c'est autre chose. Mais et chez moi, c'était mes tantes et ma mère et ma grand-mère qui parlaient. C'était des expressions à l'emporte-pièce à propos de tout. Ma grand-mère, elle disait, la vie est une tartine de merde et on mange une bouchée tous les jours. Et plus ça vient, moins il y a de pain, elle disait. C'est des trucs comme ça. Des choses qui partaient à l'emporte-pièce. On disait, on faisait la gueule, par exemple, on n'allait pas trop bien. Elle disait, ma grand-mère, marie-toi avec le cul de la lune pour engendrer le beau temps. Débrouille-toi avec ça, quoi. Tu veux pas manger, ça te fera une couche de maigre. Donc, on entendait des choses, c'est des gens qui n'avaient pas vraiment été à l'école, mais ils avaient des propos comme s'ils sauvaient l'honneur avec la parole. Donc, il y avait quand même, à travers la parole, on pouvait s'en sortir. Et quand on est cancre, c'est intéressant, parce que quand on se fait réprimander, mais on s'aperçoit que le voisin, il a rigolé de ce qu'on a dit, ça fait toujours plaisir, il y en avait un qui écoutait. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mon père parlait pas très bien français, enfin, il avait une mauvaise prononciation du français, ce qui fait que chez nous, mon père, il disait, je vais chercher la boiture. La boiture, tiens, c'était marrant, c'est une boîte, pas avec des roues. C'était les bâches qui donnaient du lait, et on mangeait du veuf à la maison. Tu vois, tu as un morceau de bœuf, c'était un peu dur, mais... Ce qui fait qu'il n'y avait qu'une sorte de malentendu permanent, et avec mes sœurs, on rigolait de ça. Ce qui fait que ça nous faisait un langage qui était, et une communication qui était assez chaleureuse, on ne manquait pas d'amour, mais c'était un peu destroy, quoi. Il n'y avait pas de valeur, pas de valeur. Pas de force, quoi... du tout. Et moi, j'avais donc ma mère m'avait emmené chez le psychiatre, et le psychiatre m'avait fait une ordonnance avec des livres. Il m'avait dit, tu aimes lire ? Tu aimes lire, toi ? Moi, je lis des polars, que je vole au marché. Parce qu'on volait, on faisait une bibliothèque de polars avec des copains, on les ramassait au marché, on les prenait. Et il m'a dit, si tu veux, tu vas aller chez le libraire qui est un copain à moi, et je vais te donner une liste de livres à lire. Il m'a fait une ordonnance de livre. Enfin, c'est anecdotique, mais c'est quand même quelque chose, parce que moi, j'aimais lire, j'aimais les mots, mais je n'allais pas dans les bibliothèques. Dans mon enfance, je n'ai jamais été au théâtre, je n'ai jamais été dans une bibliothèque. Il n'y avait pas de culture. Je ne sais pas comment dire. On n'allait même pas à la MJC. On n'était pas là-dedans. Mais on n'était pas malheureux pour autant. Et donc, il a mis en tête Kafka, la métamorphose. Je suis allé acheter ça chez le libraire. Je ne sais pas si vous connaissez la métamorphose de Kafka. C'est un type tout à fait banal. Et un matin, il se réveille, il est devenu un cancrelat. Une bête. Ce qui fait qu'on le met dans un coin. La famille commence à avoir un regard sur lui. Tout ça, on lui jette des choses. Et petit à petit... il devient un peu l'ennemi. Et moi, ça a été formidable pour moi, parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un pouvait inventer une histoire où un homme est un cancrelat. Je disais, mais donc on peut tout inventer. Alors tout est possible. Les mots peuvent servir à s'émanciper du réel. Et ça rejoint un peu ce que disait Gigi à propos des contes. Moi, je ne connaissais pas de contes, sauf le Chaboté, que j'avais découvert dans un livre qu'on appelle un pop-up maintenant, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on ouvrait les pages et les personnages se mettaient debout. Je ne sais pas qui m'avait montré ça, mais ça m'avait fasciné, ce chat qui pouvait changer la vie en partant aux alentours, disant « je vais faire le destin, le chemin de mon maître ». Et donc, à partir d'un mensonge, puisqu'il dit, c'est le marquis de Carabas qui vous amène, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Perrault, mais qui a dû être reprise depuis les contes traditionnels. Mais moi, ce chat, je le trouvais d'une vitalité, d'une pugnacité et d'une détermination incroyable. Il va même jusqu'à manger l'ogre. C'était formidable, quoi. Et c'est ça qui m'a intéressé après dans les contes, c'est cette force qu'ont les petits à se transcender, à traverser les épreuves les plus incroyables pour s'en sortir. Et donc, moi, je crois que la résilience, c'est quelque chose qui nous guette tous. On peut tous s'enfoncer dans le magma, mais on peut aussi espérer s'en sortir. Et je pense que si on est là, c'est qu'on est comme ça, on a envie de ça, de s'en sortir. Et donc, c'est un long chemin, mais pour le dire rapidement, à un moment donné, je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais je ne voulais pas rester en Champagne. On commençait à faire pas mal de petits boulots, puis les usines fermaient. Ça devenait plus très gai, la ville de Troyes, qui était une ville de bonneterie. Tout le monde fabriquait des chaussettes, des maillots de corps et des slips. Donc on vivait à l'heure des usines. Et puis à un moment donné, les usines ont commencé à fermer, les cafés aussi. Et puis les ouvriers sont partis en banlieue. Et puis ce centre-ville qui était très populaire est devenu un peu... C'était les Beaux-Arts, là. C'était un peu la même chose. Et moi, j'ai toujours eu cette conscience ouvrière qu'il y avait... Moi, j'étais de ce milieu-là. J'étais pas... J'étais du milieu des gens qui étaient pas riches, quoi, qui avaient une communauté d'ouvriers, quoi. Et je ne voyais pas trop ce que faire là-dedans. Ça picolait pas mal. On allait voir des concerts de pop musique et tout ça. Mais j'avais qu'une envie, c'est faire le tour du monde. Je me suis dit, voilà, sans doute, c'est mon envie, c'est ça. Il faut que je fasse le tour du monde. Je vais partir voir ailleurs, comme Patrick. Sauf que moi, je ne suis pas parti loin. En fait, la faire vite, je suis parti en Espagne sur les traces de mon père. J'ai travaillé dans des fabriques de chaussures, dans des hôtels, tout ça. Puis je me suis aperçu qu'avec le tourisme, je pouvais voyager, mais il fallait connaître l'anglais. Je suis allé en Angleterre, et là, je suis tombé avec une auberge d'étudiants. Il y a des Français, ils m'ont dit, il y a un centre culturel français. Moi, pour moi, c'était un peu l'étranger, le centre culturel. Et là, il y avait des cours de français, d'anglais, on donnait des petits boulots. Et je suis rentré là-dedans, et il y avait des activités, il y avait une activité théâtre. Et il y avait des amateurs qui jouaient une pièce qui s'appelait « Les fusils de la mer Carrare ». C'était une pièce de Bertolt Brecht sur le théâtre, la guerre civile espagnole. Et ça m'a fasciné d'entendre ces gens lire, des amateurs qui étaient comme ça, on habite tous les jours. Et à la fin, ils m'ont demandé si je voulais faire le mort dans la pièce. Et j'ai accepté. Je n'en suis pas mort. D'ailleurs, j'ai ressuscité parce qu'on a joué deux fois. Donc, il fallait que je... J'avais pas fait de stage pour ça, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. On peut jouer la mort. On peut faire semblant. Mais moi, c'était ça que j'avais envie, de jouer, à faire semblant pour trouver la vérité, pour trouver quelque chose qui soit... Je n'avais pas cru dans tout ce qu'on m'avait dit, mais là, peut-être, c'était le moyen... Par le détournement, le jeu, l'imaginaire et le décalage, le poétique, mais je ne le disais pas comme ça à l'époque, trouver un chemin en s'appuyant sur du vent, quoi, sur de l'imaginaire. Et assez vite, j'ai eu envie de faire tout. Parce que, alors là, je suis revenu en France et j'ai une cousine qui m'a dit « Mais attends, tu peux t'inscrire à la fac de Vincennes, qui est une fac issue de mai 68 ». Revendiqué par les étudiants de la Sorbonne et tout ça, c'est une fac qui est ouverte aux non-bacheliers et aux travailleurs. Une deuxième chance qu'on me donne dans la vie. Et moi, je suis rentré à la fac avec mon certificat d'études. Et j'ai fait des études tout en travaillant à côté, jusqu'au doctorat. J'ai même été intégré comme chargé de cours à la fac pendant 20 ans. Et je me suis mis à travailler le théâtre narratif. Beaucoup le théâtre de Bertolt Brecht, parce que Bertolt Brecht il faisait un décalage, une distanciation entre soi, le personnage, et l'acteur. Et ça m'intéressait. Parce que je me disais, on peut faire semblant, mais on n'est pas. Mais il ne faut pas être dupe de ça. On est dedans et derrière et dehors. Ça, vous voyez, j'avais pas de fond, mais j'avais la forme. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait un cours qui s'appelait « Dire et ou raconter ». Tiens, c'est pas la même chose, « Dire et raconter ». Et ça m'a beaucoup intéressé, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre où les personnages se racontaient des choses. Deux clochards sur un trou à ordures, avec des objets, ils se racontaient des choses. Quand j'ai commencé à faire ce genre de théâtre, j'ai rencontré des conteurs un jour qui m'ont invité dans un festival en me disant, parle-nous de cette écriture entre la narration et le jeu. Et donc j'ai participé à ça. Et en voyant des conteurs comme Abby Patrix, Nasser Kémir, Zarkat, Mimi Barthélémy, tout ça, je me suis dit, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est-à-dire des auteurs en direct. Il n'y a pas besoin de décor, il n'y a pas besoin de. Je suis metteur en scène, je suis acteur, je regarde le public, tout ça. Mais j'avais toujours quand même mes petits objets. C'est-à-dire, je racontais les petites comptines que je faisais pour les enfants. Je racontais à partir d'un dessin. Je racontais à partir de petits instruments de musique, je sortais de mes poches et tout ça. Et puis, j'ai une copine qui m'aidait à faire ça, qui m'a dit, elle était bibliothécaire, il y a un concours de conteurs à Chevilly-Larue, tu devrais y aller. J'y suis allé, j'ai rencontré Gigi. J'ai été en finale, mais ils m'ont pas gardé parce que c'était pas du tout un conte traditionnel. C'était un truc que j'avais inventé. Mais ça m'a allumé. Je me suis dit, mais il y a une confrérie de rêveurs éveillés. Je me suis senti de cette matière-là. Et ça m'a vraiment allumé. Puis Bruno de la Salle m'a invité dans un festival qu'il avait à Montpellier qui s'appelait Les Arts du Récit, dans les jardins Pétrarque, le soir, sur France Culture, cet enregistrement en direct. Il y avait une horloge, il ne fallait pas dépasser le temps, ça foutait la trouille. Il y avait Bernard Lubat, il y avait Gougo, il y avait le théâtre à bretelles, tout ça. Moi, j'avais jamais vraiment raconté en public, quoi, que pour des petits-enfants. Mais ça m'a totalement allumé. Et petit à petit, en écoutant les autres, en écoutant ce que racontait Gigi aussi, je me suis intéressé aux contes traditionnels en disant, mais les contes, c'est incroyable. Ils ont une diversité. Tous les conteurs quand racontent ont été chercher des choses qui leur parlent à eux, mais qui finalement nous parlent à nous. Et il n'y en a pas un qui va raconter comme Michel Hindenock, il n'y en a pas un qui va raconter comme Gigi, il n'y en a pas un qui va raconter comme Yannick. On est tous différents. Et c'est ça qui m'a vraiment allumé, c'est-à-dire trouver sa langue. Trouver sa langue, c'est-à-dire ne pas abandonner ce que l'on est au fond en soi, quoi. Si on a été, comme moi, amusé par les mots, peut-être c'est à travers ça qu'on va trouver à sa structure, son squelette. Et puis un autre, ça va être par les voyages ou les images. Une autre, ça va être par le fait de se demander si on est fou ou pas. Enfin, c'est sur nos fragilités, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, qu'on va trouver sa langue. Et j'étais très étonné de voir qu'il y avait beaucoup de conteurs étrangers. Qui venaient de Mimi Barthélémy, Nasser Kémir, il y en avait beaucoup de conteurs africains, Mamadou Diallo, il y avait beaucoup de conteurs qui trouvaient leur place ici grâce à la parole. Ils amenaient leur monde avec eux. Et il y avait Amadi aussi, un conteur belge d'origine marocaine. Il y avait plein de conteurs et des conteuses qui amenaient ce qu'ils étaient dans leur enfance, quoi. Ils avaient fait tout ce chemin et moi, ça m'a permis de penser comme Aimé Césaire, qui disait, il faut travailler la langue française, on a été colonisé par elle, mais il faut lui faire des petits à la langue française. C'est-à-dire, il faut s'en servir avec ce que l'on est. C'est-à-dire, faut être bon à l'école. Mais pour en faire autre chose qui nous appartient à nous et qui va nous permettre d'intéresser les autres. Enfin, vrai, bref. Et je suis toujours convaincu de ces deux choses-là très importantes, c'est que chacun a son imaginaire et sa façon de son rapport à l'écriture au sens large, l'écriture orale, l'écriture qui est un mi-chemin entre, tu parlais de la tradition juive, non, c'est toi, sur le tenir sur deux jambes. L'écriture et l'écriture orale, qui utilise aussi le corps, comme disait Julie, et puis la structure. Et moi qui n'avais pas de structure, c'est en faisant travailler les gens dans les stages sur les structures, parce que ce qui est important, c'est, comme disait Gigi, de partir de quelque chose qui est la faiblesse, la fragilité. Qu'est-ce qui va démarrer un compte? C'est le fait qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, ou qu'il faut changer, ou une souffrance, un désir, quelque chose, une situation qui demande réparation d'une certaine manière. Donc comme nous. Et donc il va falloir un déclencheur, parce que sinon on partira jamais. Et ce déclencheur va nous amener dans une quête qui va nous faire arriver à une résolution qui sera en miroir de ce que ça a été posé au départ. Donc souvent, quand on arrive à inventer une histoire à la fin, il faut revenir au début, parce qu'on n'a pas assez nourri le début. Et donc, toute cette question-là d'ossature, avant d'y apporter ses mots, ses images et son rythme et tout ça, c'est cette question de la structure. Et moi, on dirait que c'est comme l'araignée, c'est-à-dire elle a fait un fil, je ne sais pas comment elle le lance, le premier fil, mais ce fil-là va lui permettre de tisser tout. Mais encore faut-il lancer le premier fil. Donc partir à la recherche de quelque chose à structurer en avançant. Et beaucoup d'écrivains, par exemple, écrivent sans savoir où ils vont. Et moi, je suis un peu comme ça. Et c'est en cours de route que je trouve. Voilà. Je vais arrêter là, mais au fond, c'est ça qui me passionne dans tout ce qu'on entend, de tout ce que vous avez dit et exprimé depuis le début, c'est ce rapport à croire en soi pour aller vers les autres. Mais ce soi, il est en mouvement, hein, il ne va pas être figé, hein. Donc il est encore fragile. Il ne faut pas oublier d'être l'enfant de soi-même. Je sais plus, c'est René Char qui dit. On a cette chance extraordinaire de cultiver les mots avec l'outil de ses rêves et d'essayer de manifester quelque chose qui est en même temps soi-même au fond, avec toutes les questions qu'on se pose. Et je pense que quand on parlait de l'ego avec le chien, il est toujours là quand même. Et en même temps, on est relié aux autres, à une société qu'il faut améliorer parce qu'elle ne va pas bien du tout. Moi, je suis très sensible à ça. Et puis en même temps, il y a un mystère. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il faut accepter aussi cette part de mystère qui nous entoure et qui fait qu'on est relié par des forces et des fils à des générations passées, à des paroles d'autres gens, à des choses qui sont indicibles. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avancer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez clair dans ce que je dis, mais en tout cas, essayer de trouver sa sincérité. Alors, je suis en train de réfléchir au thème du mensonge et de la vérité en ce moment. Et j'ai lu quelqu'un qui disait le contraire du mensonge n'est pas le contraire de la vérité n'est pas le mensonge. Le contraire du mensonge n'est pas la vérité, c'est la sincérité. Et je pense que c'est juste. Parce qu'on n'est pas obligé de mentir pour comment dire seulement pour le plaisir de mentir ou pour tromper l'autre. On peut mentir, par exemple, quand on a un souvenir, on peut ne pas avoir le même, mais ce n'est pas pour ça qu'on ment. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas collé les mêmes images, quoi. Et on m'a raconté une petite histoire que je vous raconte, que vous connaissez sans doute. C'est un moine qui est en train de méditer face à un mur. Et il a le soleil dans le dos. Et il médite déjà depuis longtemps, quand il entend passer derrière lui un fuyard qui lui dit: Moine, s'il te plaît, je suis poursuivi, ils veulent me lyncher, ils veulent me détruire, s'il te plaît, ne leur dis pas que je suis passé par là. Le moine ne répond rien, et le fuyard s'enfuit. Puis le moine se retourne. Il se met face au soleil et le dos au mur et continue sa méditation. Et d'un seul coup, il y a une bande de fous furieux qui arrivent avec des bâtons. Hé, moine, toi qui médites depuis des heures, là, est-ce que t'as vu passer un fuyard ? Et le moine répond, depuis que je médite devant le soleil, je n'ai vu passer personne. Et alors les autres auront rouge. C'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge en même temps. Et je trouve que c'est un peu aussi ce qui est le conte. Le conte, donc je laisse à votre méditation ce petit conte.
Sur le mensonge et la vérité.
Oui.